Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par un journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Effectuer la prière l'Eid al-Adha au Cham de Merdeka, le président présente des plans pour le développement d'infrastructures à Sukabumi. La distribution des certificats fonciers, le président Joko Widodo rappelle aux gens de faire attention. Le ministre du Commerce souhaite que l'Indonésie, l'Inde et l'ASEAN renforcent leur partenariat dans tous les domaines. Le Vietnam est optimiste que la coopération bilatérale avec l'Indonésie va développer. La mission culturelle du groupe de danse de Kencana Pradipa de la Faculté de psychologie de l'Université d'Indonésie est une forme de force et d'unité de la nation. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo avec la première dame Iryana Joko Widodo effectue la prière de l'Eid al-Adha au Cham de Merdeka en ville de Sukabumi, l'ouest de Java. Dans son discours, le président Joko Widodo a mentionné le plan de développement de l'infrastructure à Sukabumi. Selon lui, le plan de développement de l'infrastructure couvre la construction de la voie ferrée double qui relie les zones de Bogor et Sukabumi. En outre, le président Joko Widodo a également transmis le plan de la construction de l'autoroute qui augmentera l'accès public depuis et vers Sukabumi.
Sekaligus menjawab apa yang tadi disampaikan Pak Walikota. Kenapa kemarin saya ke Sukabumi?
Ainsi que de répondre à ce qui a été dit par le maire, pourquoi hier je suis allé au Sukabumi à l'aide du train? Parce qu'il commencera la construction de la voie ferrée à double de Bogor à Sukabumi. L'année prochaine, on vient de surveiller que cette voie ferrée sera continuée Sukabumi, Cianjur, ville de Bandung. Le budget de Bogor Sukabumi existe déjà. Alors soyez exécutés seulement. La seconde est de répondre à propos de l'autoroute. L'autoroute devait commencer aux années 96, mais les investisseurs n'ont pas commencé à s'engager. Donc, il y a un an et demi, j'ai décidé d'être pris en charge par les entreprises publiques et j'ai immédiatement commencé à cette époque. Inch'Allah, pendant de prochaines années, cette construction finit. Ensuite, le troisième est sur l'aéroport. Je ne peux pas annoncer ici parce que si je l'annonce, le prix du terrain augmentera. En plus de transmettre des plans de développement d'infrastructures à Sukabumi, l'ouest de Java, le président Joko Widodo a rappelé l'importance de l'unité dans la communauté. Selon lui, la nation indonésienne, comme une grande nation, a un grand potentiel si elle est construite sur la base de l'unité. En plus d'être accompagné par la première dame Iryana Joko Widodo, le président Joko Widodo a également été accompagné d'un certain nombre de ministres, à savoir le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, le ministre de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi, le gouverneur de l'Ouest de Java, Ahmad Heriawan, et le maire de Sukabumi, Muhammad Muraz. La mise en œuvre de la prière d'Eid al-Adha au Cham Merdeka, Sukabumi, a été dirigée par Imam Kiai Haji Mahmud Ghazali en tant que chef de l'école coranique Jamiatul Qura, et khotib a été prononcé par le professeur Dr. Dedi Ismatul Mahdi, le président de MOI Sukabumi. Le président Joko Widodo a distribué 5500 certificats fonciers aux personnes de Sukabumi dans sa visite de travail à Sukabumi, l'ouest de Java. le président l'a distribué symboliquement à 12 bénéficiaires de certificats témoignés par tous les gens qui l'acceptent au complexe Sekolah Tinggi Pembentukan Perwira à Sukabumi. Dans son discours, le président Joko Widodo a rappelé aux bénéficiaires des certificats fonciers de l'utiliser avec la sagesse pour améliorer leur économie. Le président a également souligné l'intention élevée d'utiliser les certificats comme des garanties pour les prêts des banques. Selon lui, hypothéquer les certificats à des fins économiques devrait être bien calculé. Après avoir obtenu les certificats, la plupart des gens veulent l'hypothécaire à la banque. Tout va bien, mais je rappelle à tous les détenteurs de certificats de faire l'objet d'une contrepartie et d'un calcul avant d'hypothéquer les certificats à la banque. Assurez-vous de pouvoir payer la compte mensuelle et les intérêts. Ne faites pas en erreur en promettant le certificat, mais vous ne pouvez pas payer la compte et vous perdez votre certificat foncier. Pendant ce temps, le ministre de l'Agence agronomique et spatiale en tant que chef de l'Agence nationale des terres, Sofiane Djalil, a déclaré à la même occasion que l'Ouest de Java a plus de 19 millions de terres. De ce nombre, seulement environ 6 millions de terrains, soit seulement environ 32% qui ont été certifiés. Selon Sofiane Djalil, cette année, Java occidentale a un quota de certification foncière de plus de 500 000 terrains. Il a déclaré que le gouvernement vise 25 000 terrains pour être certifié à Sukabumi, l'ouest de Java. La mission indienne auprès de l'ASEAN en coopération avec le ministère indonésien du commerce a tenu un événement intitulé « Entre Indonésie-ASEAN, perspective pour l'intégration économique » mercredi le 30 août à Jakarta. L'événement a été assisté par le ministre indonésien du commerce, Enggartia Stolokita, et l'ambassadeur indien à l'ASEAN, Suresh Reddy. Dans sa déclaration clé, le ministre Enggartia Stolokita espère que l'Indonésie, l'Inde et l'ASEAN profiteront de ce forum de renforcer le partenariat dans tous les domaines. Je vous recommande vivement de prendre ce forum comme une occasion d'échanger des points de vue et des idées sur la façon que nous pouvons mieux nous concentrer sur le secteur de la coopération commerciale et de l'investissement qui ont l'impact fort sans perdre la vision à long terme pour établir un partenariat plus fort dans tous les domaines. Dans cet événement, on a organisé une discussion menée par le directeur général de la coopération internationale du ministère du Commerce, Iman Pambagio. Cet événement révèle que les domaines qui ont un énorme potentiel, si bien qu'il peut être utilisé. L'Indonésie est le deuxième grand partenaire commercial de l'Inde en Asie, avec des exportations axées sur le charbon, les minéraux, le caoutchouc, le poulpe et le papier. L'Indonésie et le Vietnam ont une forte coopération bilatérale et a été testée pendant 62 ans. L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Huang Antoine, dans une interview au studio de la Voix d'Indonésie à Jakarta, a déclaré jeudi que les deux pays avaient un engagement ferme pour garder une coopération mutuellement bénéfique des deux pays. Il a expliqué que l'Indonésie et le Vietnam avaient une grande valeur historique pour la longue coopération diplomatique des deux pays.
So I think also I have positive expectations.
Je pense que j'ai également l'espoir de la relation économique entre l'Indonésie et le Vietnam à l'avenir. Le numéro un est que nous avons la volonté politique de nos meilleurs leaders. La deuxième chose est qu'il y a le protocole d'entente entre l'Indonésie et le Vietnam dans les domaines des affaires où les deux pays ont intensifié encore la coopération d'investissement, du commerce et de l'économie entre l'Indonésie et le Vietnam. En outre, l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Huang Antoine, a encouragé les investisseurs de l'Indonésie et du Vietnam d'investir mutuellement dans ces pays. Il espère que les dirigeants des deux pays pourraient regarder l'opportunité de développer une coopération économique, si bien que la coopération économique des deux pays continue à augmenter. La mission culturelle du groupe de danse des étudiants de la faculté Psikologi de l'Université d'Indonésie, Kencana Pradipa, qui a remporté le championnat du monde de Floorball 2017 en Bulgarie, récemment étant exemple de la puissance et de l'unité de la nation indonésienne aux Jeux du monde. Cela a été transmis par le doyen de la faculté de psychologie de l'Université d'Indonésie, Cut Rifa Mutia Umar Ali, à la Voix d'Indonésie à Jakarta, mercredi le 30 août.
Di tengah apa yang kita...
Au milieu de ce que nous ressentons tout à l'heure, je pense que cette mission culturelle peut nous unir en tant que nation et le monde nous considérera comme une nation forte. Cut Rifa Mutia Umar Ali a ajouté que le potentiel d'aide possédé par les étudiants de la faculté de psychologie de l'Université d'Indonésie était assez important. Par conséquent, sa partie soutient grandement ce qui a été fait par le groupe de danse de Kencana Pradipa. Serge Tau, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers amis de longtemps, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre « L'ouverture de Myanmar a résolu le conflit de Rakhine ». Aujourd'hui, le 1er septembre 2017, certains musulmans du monde entier exécutent le sommet du Hajj à la Mecque. Simultanément, les musulmans du monde entier célèbrent aussi la journée d'Eid al-Adha. Mais la communauté islamique de Rohingya dans le Rakhine au Myanmar ressentit la tension et la souffrance. Le conflit furieux au début de cette semaine a coûté de nombreuses vies et a entraîné des milliers de Rohingya de fuir au Bangladesh. En tant que pays avec la plus grande population musulmane au monde, l'Indonésie est également très préoccupée par cet événement. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie avait regretté des pertes à Rakhine après l'attaque du 25 août. Par conséquent, le gouvernement indonésien tentera de trouver la meilleure solution. Comme l'a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, l'Indonésie a encouragé le gouvernement du Myanmar à rétablir immédiatement les conditions normales en rétablissant la stabilité de sécurité dans la province de Rakhine. Les deux parties belligérantes sont invitées à se retenir et à éviter la violence. La déclaration officielle du gouvernement indonésien présentée par la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, utilisant l'expression des deux côtés du conflit, afin de confirmer l'attitude de la politique étrangère impartiale de l'Indonésie. L'espoir a été livré à la fois au gouvernement du Myanmar et aux guerriers de Rohingya, connus sous le nom d'Arakan Rohingya Salvation Army ou ARSA. Le gouvernement birman a déclaré que le conflit armé cette semaine a été déclenché par l'attaque de l'ARSA. Des affrontements se sont produits lorsque des forces militaires birmanes ont réussi de faire contre-attaquer. Au moins 100 personnes ont été tuées dans le conflit armé cette semaine. Pendant ce temps, des milliers d'autres ont essayé de traverser le Bangladesh qui borde le Myanmar et le pays d'origine ethnique Rohingya. L'inquiétude suscitée par le chaos ethnique à Rakhine ne provient pas seulement de l'Indonésie. Les organismes des Nations Unies et de Human Rights Watch ont donné également l'attention particulière. Le Bangladesh, en tant que pays voisin qui borde directement, a été inondé de plus en plus par des réfugiés de Rohingya. De même, l'Indonésie, parce que certains arrivent également dans ce pays. Pour l'Indonésie, il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer de résoudre le conflit ethnique qui a causé cette crise humanitaire. De plus, avec le nombre croissant de la société civile qui est devenue victime des deux côtés. Si jusqu'à présent, le gouvernement du Myanmar était fermé pour les événements réels à Rakhine, alors pour résoudre ce problème, Yangon et les figures politiques du pays doivent être plus ouvertes, à la fois en recevant des conseils, des contributions et des aides fournies par les pays voisins, les organisations internationales et les Nations Unies. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, on va écouter maintenant l'histoire d'aujourd'hui, l'édition le 1er septembre. On va commencé le 1er septembre 1923, tremblement de terre au Japon. La région de Tokyo, Yokohama, zone surpeuplée, est secouée par un violent tremblement de terre suivi d'un incendie et d'un raz-de-marée. Près de trois quarts de Tokyo sont détruits et plus de 100 000 personnes périssent dans la catastrophe. L'archipel se trouve dans une zone d'activité volcanique intense car la fonte du Pacifique occidental glisse régulièrement sur la plaque continentale qui porte le Japon. On va changer le 1er septembre 1961, première conférence des non-alignés à Belgrade en Yougoslavie. La conférence afro-asiatique tenue du 18 au 24 avril 1955 à Bandung, assistée par les 29 chefs d'État et de gouvernement de l'Asie et de l'Afrique, est un processus initial de création du mouvement des non-alignés. Le mouvement des pays non-alignés a eu lieu le premier sommet à Belgrade, en Yougoslavie, du 1er au 6 septembre 1961. 25 pays non-alignés se réunissent à Belgrade suite à l'invitation de Tito, président de Yougoslavie. C'est là le premier congrès du mouvement des non-alignés, luttant contre toute forme de colonialisme et permettant de faire bloc face aux deux puissances de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS. On termine le 1er septembre 1963, l'Université agricole de Bogor a été fondée. L'Institut agricole de Bogor, IPB, est une université agricole d'État basée dans la ville de Bogor, l'ouest de Jaffa, en Indonésie. L'Institut a commencé comme une école agricole ou Landbouw Hogeschool, formée par le régime colonial hollandais au début du XXe siècle. Cette école a été rebaptisée plus tard la faculté d'agriculture de l'Université d'Indonésie. La pose de la première pierre de la faculté d'agriculture est effectuée par le premier président de la République d'Indonésie, ingénieur Soekarno, le 27 avril 1952. Il veut l'agriculture à traiter spécifiquement parce que l'Indonésie est un pays agricole. La prochaine étape de plusieurs facultés de l'Université de l'Indonésie ont décidé de former un établissement d'enseignement indépendant. Le 1er septembre 1963, la faculté de l'agriculture et la faculté de vétérinaire séparées à l'Institut d'agronomie de Bogor, IPB, après sa sortie de l'Université d'Indonésie. Cinq facultés à l'IPB ont été formées, à savoir la faculté de l'agriculture, la faculté de foresterie et la faculté de la pêche à Baranancian et la faculté de l'élevage et la faculté de médecine vétérinaire au Mont Gede. Ces auditeurs de TIS, c'était l'histoire d'aujourd'hui ce soir, l'édition le 1er septembre. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici donc la mise au point et pour le titre. L'Indonésie demande au gouvernement du Myanmar d'arrêter la violence à Rakhine. L'Indonésie a condamné l'attaque du groupe armé au poste de police et aux installations de refuge des réfugiés à Mangtau, l'état de Rakhine, le 25 août 2017. L'Indonésie a également regretté que des victimes mortes, des blessés et des centaines d'autres aient été évacués. L'Indonésie espère que le gouvernement de Myanmar prend immédiatement des mesures pour restaurer la sécurité et assurer une protection humanitaire inclusive. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Ratna Alpemarsudi, au palais présidentiel, a déclaré: le gouvernement d'Indonésie espère que le Myanmar peut prioriser le côté humanitaire pour résoudre le conflit humanitaire pour les musulmans rohingyas en état de Rakhine. Madame Ratna Alpemarsudi a expliqué: sa partie a contacté le conseiller de sécurité nationale du Myanmar, U Thaung Thun, pour coordonner la situation qui s'est produite dans l'état de Rakhine. En outre, elle a également indiqué à toutes les parties au conflit de s'abstenir et de ne pas commettre d'actes de violence susceptibles d'aggraver la situation sécuritaire. L'Indonésie déclare que la protection de la sécurité est un domaine humanitaire qui doit être donné inclusivement à toutes les personnes dans l'état de Rakhine. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Ratna Alpemarsudi, a rencontré le président Joko Widodo pour signaler ses plans de travail pour se rendre au Myanmar dans un proche avenir. Elle a déclaré au président qu'elle avait parlé avec plusieurs parties allant du ministre turc des Affaires étrangères, du ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, ainsi que la commission d'Annan Advisory pour Myanmar, Kofi Annan. La ministre Ratna a déclaré aux journalistes au Palais Jakarta mercredi 30 août 2017 que la commission d'Annan Advisory appartenant à Kofi Annan a déclaré que l'aide et les efforts déployés par le gouvernement indonésien à l'état de Rakhine et aux réfugiés de Rohingya sont très exacts. La ministre des Affaires étrangères a expliqué que Kofi Annan avait espoir élevé que l'Indonésie pourrait aider d'autres pays à mettre en œuvre les recommandations qui ont été publiées. Pendant le Bangladesh et le Myanmar doivent bien collaborer pour s'occuper spécialement du traitement des réfugiés, parce que sans une bonne coopération, ce sera difficile de faire la gestion des réfugiés. Presque ce que l'Indonésie fait est très bien avec les recommandations émises par la commission de Kofi Annan. Par conséquent, l'espoir de Kofi Annan est très grand que l'Indonésie peut aider à mettre en œuvre les recommandations dans le rapport de Kofi Annan. Comme on le sait, l'Indonésie à ce jour a tenté d'aider les réfugiés de Rohingya de différentes façons, allant de la livraison de l'assistance de nourriture, de l'assistance logistique à la construction d'écoles et au plan de construction d'un hôpital. La ministre des Affaires étrangères, Ratna Alpemarsudi, a expliqué que l'Indonésie continuerait à adopter une approche globale pour aider le Myanmar à résoudre le conflit et à aider les Rohingyas qui sont victimes du conflit. Pendant ce temps, le vice-président de la commission du Parlement, Mutia Hafid, continue de soutenir les efforts du gouvernement. Dans ce cas, le président Joko Widodo et la ministre des Affaires étrangères, Ratna Alpemarsudi, de résoudre la violence à Rakhine. La violence acceptée par les Rohingyas, selon elle, est un acte contraire aux droits de l'homme. En plus de faire pression sur le gouvernement du Myanmar pour mettre fin à la violence contre les Rohingyas, Mutia espère également que le gouvernement indonésien prendra l'initiative d'autres approches. Cette approche peut être faite via les organisations régionales et internationales. L'Indonésie peut porter cette question à l'ONU pour mener une session d'urgence. Sur du talk, c'était la mise au point pour ce soir. Le président Joko Widodo avec la première dame Iryana Joko Widodo effectue la prière de l'Idul Adha au Cham de Merdeka en ville de Sukabumi, l'ouest de Java. Dans son discours, le président Joko Widodo a mentionné le plan de développement de l'infrastructure à Sukabumi. Selon lui, le plan de développement de l'infrastructure couvre la construction de la voie ferrée double qui relie les zones de Bogor et Sukabumi. En outre, le président Joko Widodo a également transmis le plan de la construction de l'autoroute qui augmentera l'accès public depuis et vers Sukabumi.
Sekaligus menjawab apa yang tadi disampaikan Pak Wali Kota. Kenapa kemarin saya ke Sukabumi?
Ainsi que de répondre à ce qui a été dit par le maire, pourquoi hier je suis allé au Sukabumi à l'aide du train? Parce qu'il commencera la construction de la voie ferrée à double de Bogor à Sukabumi. L'année prochaine, on vient de surveiller que cette voie ferrée sera continuée Sukabumi, Cianjur, ville de Bandung. Le budget de Bogor Sukabumi existe déjà. Alors, soyez exécutés seulement. La seconde est de répondre à propos de l'autoroute. Votre route devait commencer aux années 96, mais les investisseurs n'ont pas commencé à changer. Donc, il y a un an et demi, j'ai décidé d'être pris en charge par les entreprises publiques et j'ai immédiatement commencé à cette époque. Inch'Allah, pendant les prochaines années, cette construction finit. Ensuite, le troisième est sur l'aéroport. Je ne peux pas annoncer ici parce que si je l'annonce, le prix du terrain augmentera. En plus de transmettre des plans de développement d'infrastructures à Sukabumi, l'ouest de Java, le président Joko Widodo a rappelé l'importance de l'unité dans la communauté. Selon lui, la nation indonésienne, comme une grande nation, a un grand potentiel si elle est construite sur la base de l'unité. En plus d'être accompagné par la première dame Iriana Joko Widodo, le président Joko Widodo a également été accompagné d'un certain nombre de ministres, à savoir le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, le ministre de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi, le gouverneur de l'Ouest de Java, Ahmad Heriawan, et le maire de Sukabumi, Muhammad Mouraz. La mise en œuvre de la prière d'Eid al-Adha au Cham Merdeka, Sukabumi, a été dirigée par Imam Kiai Haji Mahmoud Ghazali en tant que chef de l'école coranique Jamiatul Kuro, et khotib a été prononcé par le professeur Dr. Dedi Ismatul Mahdi, le président de MOI Sukabumi. Le président Joko Widodo a distribué 5500 certificats fonciers aux personnes de Sukabumi dans sa visite de travail à Sukabumi, l'ouest de Java. Le président l'a distribué symboliquement à 12 bénéficiaires de certificats témoignés par tous les gens qui l'acceptent au complexe sekolah tinggi pembentukan perwira à Sukabumi. Dans son discours, le président Joko Widodo a rappelé aux bénéficiaires des certificats fonciers de l'utiliser avec la sagesse pour améliorer leur économie. Le président a également souligné l'intention élevée d'utiliser les certificats comme des garanties pour les prêts des banques. Selon lui, hypothéquer les certificats à des fins économiques devrait être bien calculé.
Ini kalau sudah pegang sertifikat biasanya ingin.
Après avoir obtenu les certificats, la plupart des gens veulent l'hypothéquer à la banque. Tout va bien, mais je rappelle à tous les détenteurs de certificats de faire l'objet d'une contrepartie et d'un calcul avant d'hypothéquer les certificats à la banque. Assurez-vous de pouvoir payer la compte mensuelle et les intérêts. Ne faites pas en erreur en promettant le certificat, mais vous ne pouvez pas payer la compte et vous perdez votre certificat foncier. Pendant ce temps, le ministre de l'Agence agronomique et spatiale en tant que chef de l'Agence nationale des terres, Sofiane Jalil, a déclaré à la même occasion que l'ouest de Java a plus de 19 millions de terres. De ce nombre, seulement environ 6 millions de terrains, soit seulement environ 32% qui ont été certifiés. Selon Sofiane Jalil, cette année, Java occidentale a un quota de certification foncière de plus de 500 000 terrains. Il a déclaré que le gouvernement vise 25 000 terrains pour être certifié à Sukabumi, l'ouest de Java. La mission indienne auprès de l'ASEAN en coopération avec le ministère indonésien du commerce a tenu un événement intitulé « Entre Indonésie-ASEAN, perspective pour l'intégration économique » mercredi le 30 août à Jakarta. L'événement a été assisté par le ministre indonésien du commerce Enggartiasto Lukita et l'ambassadeur indien à l'ASEAN Suresh Reddy. Dans sa déclaration clé, le ministre Enggartiasto Lukita espère que l'Indonésie, l'Inde et l'ASEAN profiteront de ce forum de renforcer le partenariat dans tous les domaines.
I strongly recommend that you take...
Je vous recommande vivement de prendre ce forum comme une occasion d'échanger des points de vue et des idées sur la façon que nous pouvons mieux nous concentrer sur le secteur de la coopération commerciale et de l'investissement qui ont l'impact fort sans perdre la vision à long terme pour établir un partenariat plus fort dans tous les domaines. Dans cet événement, on a organisé une discussion menée par le directeur général de la coopération internationale du ministère du Commerce, Iman Pambagio. Cet événement révèle que les domaines qui ont un énorme potentiel, si bien qu'il peut être utilisé. L'Indonésie est le deuxième grand partenaire commercial de l'Inde en Asie, avec des exportations axées sur le charbon, les minéraux, le caoutchouc, le poulpe et le papier. L'Indonésie et le Vietnam ont une forte coopération bilatérale et a été testée pendant 62 ans. L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Hoang Antoine, dans une interview au studio de la Voix d'Indonésie à Jakarta, a déclaré jeudi que les deux pays avaient un engagement ferme pour garder une coopération mutuellement bénéfique des deux pays. Il expliquait que l'Indonésie et le Vietnam avaient une grande valeur historique pour la longue coopération diplomatique des deux pays.
So I think also I have positive expectations.
Je pense que j'ai également l'espoir de la relation économique entre l'Indonésie et le Vietnam à l'avenir. Le numéro un est que nous avons la volonté politique de nos meilleurs leaders. La deuxième chose est qu'il y a le protocole d'entente entre l'Indonésie et le Vietnam dans les domaines des affaires où les deux pays ont intensifié encore la coopération d'investissement, du commerce et de l'économie entre l'Indonésie et le Vietnam. En outre, l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Hoang Antoine, a encouragé les investisseurs de l'Indonésie et du Vietnam d'investir mutuellement dans ces pays. Il espère que les dirigeants des deux pays pourraient regarder l'opportunité de développer une coopération économique, si bien que la coopération économique des deux pays continue à augmenter. La mission culturelle du groupe de danse des étudiants de la faculté psychologie de l'Université d'Indonésie, Kencana Pradipa, qui a remporté le championnat du monde de Floorball 2017 en Bulgarie, récemment est un exemple de la puissance et de l'unité de la nation indonésienne aux Jeux du monde. Cela a été transmis par le doyen de la faculté de psychologie de l'Université d'Indonésie, Cut Rifa Mutia Umar Ali, à la Voix d'Indonésie à Jakarta, mercredi le 30 août.
Di tengah apa yang kita...
Au milieu de ce que nous ressentons tout à l'heure, je pense que cette mission culturelle peut nous unir en tant que nation et le monde nous considérera comme une nation forte. Cut Rifa Mutia Umar Ali a ajouté que le potentiel d'aide possédé par les étudiants de la faculté de psychologie de l'Université d'Indonésie était assez important. Par conséquent, sa partie soutient grandement ce qui a été fait par le groupe de danse de Kencana Pradipa. Serge Tau, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve encore dans l'émission du magazine culturel. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à faire une tournée gastronomique au district de Demak, Java Central. Restez toujours ici avec nous à RRI Service International, la Voix de l'Indonésie. Demak est l'une des régions situées sur la côte du nord de la province de Java Central. Cette région est connue pour ses destinations touristiques religieuses. Beaucoup de touristes y visitent pour le pèlerinage au tombeau de Sunan Kalijaga ou Raden Fatah, les anciennes figures religieuses, ainsi de visiter la grande mosquée de Demak. Mais non seulement les destinations touristiques religieuses, cette ville, qui est connue de son monument de fruits d'étoiles, possède également des destinations naturelles, en particulier les belles plages, car elles se trouvent sur la côte du nord de Java. Il y a la plage Morosari et la plage Surodadi, qui sont très intéressants à visiter. Après avoir visité de nombreuses attractions intéressantes à Demak, c'est le temps d'essayer une variété de plats culinaires traditionnels. L'un d'eux est le porridge d'herbe qui s'appelle Choro. Le porridge d'herbe Choro se compose de deux types de culinaires. Ce sont le porridge et les herbes qui s'appellent Choro. Le porridge est fait de farine de riz et les herbes sont à base de lait de coco, de sucre brun, de sel fin, de cannelle, de clous de girofle, de gingembre, de galanga et de feuilles de pandan. Le lait de coco est fait bouillir avec des feuilles de pandan, remue jusqu'à ce qu'elle bouillonne. Ensuite, on mélange tous les autres ingrédients dans le lait de coco jusqu'à l'odeur parfumée. Ce culinaire peut être mangé tous ensemble ou séparément. Le porridge d'herbe toro est notamment délicieux lorsqu'il est servi avec du lait de coco, du quincha ou de la cassonade et de la poudre de poivre. Le porridge au toro peut également être vendu et mangé séparément entre le porridge et les herbes, et aussi pour les épices. Vous ne pouvez acheter que du porridge avec des variations de quincha et du lait de coco, ou seulement les herbes toro avec le poivre. C'est tout à fait à vous à décider. Toro est considéré comme un remède contre les flatulences et les rhumes, car il fait chauffer l'estomac. D'habitude, les adultes achètent les porridge d'herbe toro pour leur santé physique, alors que les enfants envahissent généralement des bonbons. C'est une sorte de bonbon en caramel enveloppé dans un bambou que les vendeurs habituellement apportent comme produit complémentaire. Le porridge d'herbe toro est habituellement consommé comme le petit déjeuner ou bien pour l'après-midi. Les commerçants vendent habituellement ce culinaire sur un vélo en parcourant le village. Le prix est relativement bon marché, de 2000 rupias à 5000 rupias par plat. Chers amis, voilà l'édition du magazine culturel aujourd'hui dont le sujet est le porridge d'herbe toro de Demak. On se retrouve encore demain avec des sujets aussi intéressants. Au revoir.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs et auditrices de La Voix de l'Indonésie, je suis ravi de vous revoir dans la rubrique L'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je vous présente une information sur l'exposition du papier en bois de Luan. Restez toujours avec nous à www.voi.co.id. Chers auditeurs, Daluan ou Deluan est une feuille mince en écorce du bois de Luan, ou en latin Brosonetia papyrifera. Utilisé pour écrire quelque chose, c'est pareil comme le papier. Certains manuscrits anciens utilisent le bois de Daluan comme moyen d'écriture, avant que le papier moderne n'ait pas été inventé. Le chercheur néerlandais Karel Heine, dans son livre « Les plantes utiles d'Indonésie », déclare que l'écorce de Daluan est également utile comme vêtement. Ces vêtements de Daluan sont connus sous le nom de kain tapa. Le tissu est composé d'écorces battantes avec une chauve-souris en bois ou en pierre. Chers auditeurs, le développement de la technologie qui présente le papier comme moyen d'écriture et le coton comme le matière premier du textile rend Daluan oublié et abandonné, alors que Daluan est l'un des héritages culturels de l'Indonésie et il doit être protégé. Il faut donc que l'on l'utilise et développe afin qu'il ne s'éteindra pas. Par conséquent, le gouvernement provincial de Java-Ouest, par l'intermédiaire du ministère du Tourisme et de la Culture, a tenu une exposition de papier de bois de Luan. Le thème de cette exposition est les trésors cachés d'Eloin, Fouya et Tapa. Le but est d'introduire ce patrimoine culturel surtout aux jeunes. L'exposition du papier en bois d'Eloin a lieu du 24 août au 13 septembre 2017 au musée Sri Baduga, Bandung, Java West. En outre de Deloitte, les objets présentés dans cette exposition proviennent de diverses régions d'Indonésie et même de plusieurs pays du monde qui ont la même culture dans l'utilisation de l'écorce, comme la Thaïlande, le Mexique et d'autres pays d'Amérique latine. Les collections exposées incluent des manuscrits anciens, des dessins, des vêtements, des teintures murales, des accessoires, des outils de fabrication de Dalouan et des anciens Corans réalisés vers le XVIIe siècle. Chers auditeurs et auditrices, voilà cette édition de l'Indonésie en couleur. On se retrouve encore dans la prochaine édition de l'Indonésie en couleur avec des sujets aussi intéressants. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs de La Voix de l'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie de la Radio République Indonésie Service International. Voici le programme musical qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Pour cette édition spéciale de l'Eid al-Adha, je vous présente des chansons islamiques chantées par des artistes indonésiens variés. Chers auditeurs, voici sa première chanson d'un groupe vocal Noura, intitulé Hanya Sementara, ou en français, Juste pour un moment. Bonne écoute.
Waktu tak
Chers amis, voilà la chanson « Juste pour un moment » par Noura. Cette chanson parle de la vie qui n'est pas éternelle. Donc, c'est mieux que nous passions la vie en faisant des bonnes choses. La chanson créée par Mala et Tantra du groupe Numata ont été parfaitement chantées par les quatre membres de Noura. Il y a aussi de nombreux groupes de musique en Indonésie qui font également des chansons religieuses, y compris un grand groupe de musique qui s'appelle Noah. Ce groupe, en 2016, a effectué une chanson dont le titre est Sajadah Panjang, ou en français, Longue tapis de prière. Je voulais dire Longue tapis de prière. Cette chanson est originalement chantée par un groupe légendaire indonésien, Bimbo, et par un autre groupe, Gigi. Elle est récitée par le maestro, Taufik Ismail, et elle parle du voyage de notre vie, de la naissance à la mort. Chers amis, voici Sajadah Panjang, d'une version de Noah. Bonne écoute.
Hamba sujud terlepas
Chers auditeurs, voilà la chanson Sajada Panjang chantée par Noa. Passons à un autre jeune chanteur, Vidi Aldiano, qui a déjà également sorti une chanson religieuse. En 2015, il a choisi la chanson de Didi Dukun qui s'appelle Ahirnya, ou Enfin en français. Cette chanson parle de quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'il s'est éloigné de Dieu et il exprime son désir de revenir au repentir. Chers auditeurs, voici la chanson de Vidi Aldiano, Ahirnya. Bonne écoute. Chers auditeurs, il y a encore une chanson religieuse qui parle de la tolérance vers la diversité du monde. Cette chanson s'intitule « Agamako Agamamu » ou en français « Ma foi est ta foi ». Sortie en 2017, cette chanson est la production de la collaboration entre Tompi, Glenn Fredly et Bertha McCarthy. Les trois possèdent des différentes fois et ils se sont unis dans une belle chanson. Cette chanson vise à envoyer le message de la beauté et diversité et d'humanité. Alors, chers amis, finissons cette édition du magazine musical en écoutant la chanson que j'ai mentionnée. Agamaku Agamamu ou Ma foi est ta foi. Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine édition du magazine culturel et bonne écoute.
Apakah yang selalu kau cari dalam hidup dan matimu? Di setiap hembusan nafasmu, tak cukupkah nikmati lahir yang mengalir di setiap nafasmu? Samudra jiwamu tak pernah berhenti. Nikmat Tuhan yang mana sanggup engkau ingkari, yeah.
Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup.
Saya tetap program Pour ce soir, Kang Debu Demeng, Memak, Emen Frekans. A bientôt.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.